Le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'info de la nuit. Un immeuble de 3 étages soufflé par une explosion sur le port de Sanary-sur-Mer dans le Var. Stéphane Burgat, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Sud, en direct avec nous. Plusieurs personnes sont encore portées disparues à l'heure qu'il est.
Oui, en effet, la course contre la montre est engagée. 6 personnes prises en charge pour le moment, dont une inconsciente. Il resterait 2 ou 3 personnes disparues, hein, encore sous les décombres. Le bilan n'est pas définitif, il peut évoluer. Les autorités restent vraiment très prudentes. On les comprend après l'effondrement de ce bâtiment, dont il ne reste qu'un tas de gravats situé entre 2 restaurants dans un quartier touristique. La place de la Liberté, juste en face du port de Sanary. Écoutez Stéphane Nepper, des sapeurs-pompiers, joints au téléphone par Martin.
Donc on a un immeuble de 3 étages composé d'un commerce au rez-de-chaussée et de plusieurs logements dans les 3 niveaux supérieurs qui s'est effondré vers 3h50 du matin suite à une explosion. Actuellement, on a environ 75 sapeurs-pompiers présents sur place avec notamment des équipes spécialisées en sauvetage des bléments et on travaille en milieu périlleux pour localiser et extraire les victimes au plus vite.
Voilà, ces renforts qui arrivent, notamment des Bouches-du-Rhône. L'origine de cette explosion est explorée avec notamment la piste d'une fuite de gaz qui est privilégiée puisque la préfecture du Var rapporte que les secours arrivés sur place dans la nuit ont détecté une très forte odeur de gaz. Le gaz, bien sûr, qui a été coupé dans tout le quartier. Un immeuble voisin a été évacué par précaution et un important périmètre de sécurité est mis en place ce matin.
Merci Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans le Sud.
Un nouveau tour de vis sanitaire dévoilé hier par le Premier ministre qui appelle à limiter les réunions de famille et les dîners entre amis avant les fêtes.
Jean Castex encourage aussi le télétravail. Ça, c'est pour les recommandations. Côté obligation, discothèque fermée pour 4 semaines. Et dans les écoles, Céline Géraud, un renforcement du protocole sanitaire.
Oui, dès jeudi, l'école primaire va donc passer au niveau 3 du protocole sanitaire, ce qui veut dire masque obligatoire en intérieur et en extérieur. Toutes les activités sportives en intérieur se feront là aussi désormais masquées. Et puis dès lundi, pour limiter les brassages à la cantine, les enfants seront regroupés par classe au moment des repas. Deuxième annonce très attendue, la vaccination des 5-11 ans. Ce sera possible dès le 15 décembre pour les 360 000 enfants les plus fragiles avec des pathologies à risque. Et pour les autres, le Premier ministre Jean Castex a donné le calendrier.
Sous réserve des avis et des instances scientifiques et du Conseil national d'éthique, nous projetons de pouvoir l'ouvrir à tous les enfants sur la base, évidemment, du volontariat, si possible, d'ici la fin de l'année.
Plus précisément, cela pourrait commencer dès le 20 décembre en centre de vaccination et à partir du 27 décembre en médecine de ville. Cette campagne de vaccination concerne 6 millions de jeunes enfants.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.
Alors pour les enseignants, ce passage au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles ne suffira pas à limiter la propagation du virus.
Il faut dire que chez les 6-10 ans, le taux d'incidence explose, plus de 900 cas pour 100 000 enfants. Et dans certains établissements, l'épidémie est littéralement hors de contrôle. À Herly, près de Lille, par exemple, le maire a dû purement et simplement fermer la seule école de la ville. Le reportage de notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot.
Dans une école presque entièrement vide, seule une poignée d'enfants de personnel soignant bénéficient de la garderie. Les 220 autres élèves ont été renvoyés dans leur famille. La situation étant devenue incontrôlable, constate le maire Bernard Debert.
Il fallait casser cette chaîne de contamination. Tous les jours, nous avions une alerte de la directrice de l'école qui nous indiquait un nombre de cas importants au sein de l'école, au sein du personnel enseignant, au sein du personnel municipal, et qui nous a fait prendre cette décision.
Ce week-end, les parents d'élèves ont dû s'organiser en urgence pour la garde des enfants. Alexandre a pu s'arranger avec son employeur, mais c'est pour la bonne cause. Selon lui.
Je pense que personne n'a envie d'avoir de nouveau des mesures contraignantes. Donc aujourd'hui, il vaut mieux faire de la prévention et essayer d'enrayer au maximum l'épidémie. Mais bon, c'est sûr que quand les deux parents travaillent, c'est pas toujours évident.
Alors parfois, ce sont les grands-parents qui viennent à la rescousse.
Oui, heureusement que mamie est là, oui. Bon, on sert un peu à ça quand même. Hein.
Marie-Laure aura cette semaine la garde du petit Hugo pour soulager sa fille.
Ça la dépanne, hein, puis pour son travail surtout, parce que quand on a personne pour garder les enfants, c'est pas évident. Mais je pense que c'est bien que l'école est fermée. Comme ça, on essaye d'arrêter la contamination.
Et lundi prochain, avant le retour en classe, la mairie envisage d'organiser un dépistage général pour tous les élèves. À Herlil, Lionel Gougelot, Europe 1.
Une nouvelle étape du Tour de France des territoires pour Emmanuel Macron. Il sera dans le Cher et dans l'Allier dans les prochains jours.
Au programme Vierzon, Bourges, Moulins et la symbolique Vichy qui alimente notamment les discours d'Éric Zemmour. Jacques Serret, l'ambition d'Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas officiellement en campagne, c'est de parler à la France rurale et périphérique.
Oui, Emmanuel Macron veut aller sur le terrain, montrer qu'il est au contact des Français. Et ce matin, à Vierzon, 25 000 habitants, le président a prévu plusieurs heures de déambulation dans le centre-ville à la rencontre des commerçants, des résidents de cette ville moyenne. Vierzon, puis Bourges, 65 000 habitants, où le chef de l'État doit échanger avec des auxiliaires de vie sociale. Enfin, Emmanuel Macron, qui n'a jamais été élu local, participera ce soir au conseil municipal de Château-Meillan, moins de 2 000 habitants. Il veut entendre quelles sont les préoccupations des Français, assure un de ses conseillers. Écoutez, mais aussi envoyer des messages. Demain, le chef de l'État se rendra à Vichy. Une visite qui ne doit rien au hasard, alors qu'Éric Zemmour estime que le maréchal Pétain a protégé les Juifs français. L'Élysée n'écarte pas l'hypothèse d'une réponse en silence du président, qui pourrait s'arrêter devant la plaque honorant la mémoire des Juifs déportés. Car pour Emmanuel Macron, chaque déplacement est aujourd'hui l'occasion de prendre sa part dans la campagne.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Le rayonnement de la France en Afrique menacé par des mercenaires russes. Le dossier court depuis plusieurs semaines. Rumeur ouvertement évoquée lors du Forum pour la paix en Afrique qui s'achève ce soir.
La ministre des Armées, Florence Parly, invitée à ce forum, n'a pas hésité à pointer du doigt le groupe Wagner, des paramilitaires soutenus par Moscou qui ont déjà évincé la France en Centrafrique et qui tenteraient de s'imposer au Mali pour aider les autorités à lutter contre le djihadisme. Une installation discrète, sournoise, qui inquiète la diplomatie française, William Molinier.
Officiellement, les mercenaires russes du groupe Wagner n'ont pas débarqué à Bamako. Du moins, pas encore, car selon nos informations, les services de renseignement les soupçonnent d'avancer masquées sous d'autres noms de sociétés hybrides, des entreprises de maintenance ou de logistique. À en croire une porte-parole de l'Union européenne, le groupe russe serait implanté dans 23 pays africains. C'est dire l'étendue de son action. Les précédents en Libye ou au Mozambique ont laissé des traces, en Centrafrique surtout, comme l'a rappelé ici à Dakar la ministre des Armées, Florence Parly.
Si la France et ses partenaires s'opposent à Wagner, c'est qu'ils ont vu en République centrafricaine leur potentiel déstabilisateur, les exactions contre les populations.
Face à la menace au Mali, la France joue pour l'instant son atout diplomatique. Objectif, convaincre l'Europe et les pays de l'Afrique de l'Ouest de couper les flux financiers des dirigeants de Wagner. Et sur le terrain de la guerre, la France veut impliquer davantage l'Union européenne. La nouvelle force Takuba, chargée d'assister les forces maliennes dans les opérations antiterroristes, engagera en janvier prochain 12 pays membres. Et jusqu'à 15 dans les prochains mois.
William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 à Dakar.
Et puis le référendum qui est prévu dimanche en Nouvelle-Calédonie, référendum d'autodétermination, vous le savez, aura-t-il bien lieu? Le Conseil d'État doit se prononcer aujourd'hui.
Il a été saisi vendredi en urgence par 146 électeurs et 3 associations. Dans l'archipel, la date de ce troisième référendum fait débat. Les indépendantistes à majorité kanak réclament son report, estimant que la crise sanitaire fausse la donne. 279 victimes du Covid en 3 mois. La plupart membres de ce peuple kanak, habitants historiques du territoire bien avant la colonisation française. Une communauté qui est encore sous le choc. Le reportage de notre envoyée spéciale Caroline Baudry.
Plantes médicinales kanak, fleurs tropicales, il faut se frayer un chemin pour traverser le jardin luxuriant d'Yvette et Damien Yewene. Restrictions sanitaires obligent, ils n'ont pas pu quitter la maison familiale pour assister aux funérailles traditionnelles de leur belle-sœur, emportée par le Covid il y a 2 mois.
Quand il y a le deuil, que les kanak ont resté ensemble toute une semaine.
150, 200 personnes, quoi. Tout était bloqué, il n'y avait pas d'avion, pas de bateau, et le couvre-feu.
Ils se disent traumatisés de ne pas avoir pu honorer les rites millénaires dans ces conditions impossibles. De faire campagne. Selon eux, l'État français aurait dû repousser la date du troisième référendum.
Faire campagne alors que je n'ai pas été présent pour le deuil de ma belle-sœur, ça me paraît difficile. On est un peu déçus de l'attitude de l'État. Bon, pour eux, c'est rien du tout, mais pour nous, ça vaut mieux qu'on attende un peu. On verra après, je ne sais pas, en 2022, quand est-ce qu'on va faire ce référendum. Mais pas tout de suite.
Dimanche, les Yewene n'iront pas voter pour rester en famille dans leur maison de bois foncé. Nouméa, Caroline Baudry, Europe 1.
Et notez qu'hier, Jean-Luc Mélenchon a également appelé de nouveau au report de ce troisième référendum en Nouvelle-Calédonie.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.